Quatrième et dernier temps de notre semaine sur la langue française et son histoire. Aujourd'hui, nous débattons de la longue histoire depuis le Moyen-Âge des réformes de l'écriture de la langue française, de ce qu'on a appelé depuis l'orthographe. Terminons ce matin notre semaine sur l'histoire de la langue française en nous interrogeant sur les différentes réformes de l'orthographe depuis le premier dictionnaire de l'Académie française en 1694 et même bien avant. Les débats que nous connaissons aujourd'hui sont-ils uniques? Reprend-on des arguments déjà débattus au XVIe ou XVIIe siècle? Que disent les débats sur l'orthographe de la société qui les accueille? C'est ce que nous verrons avec Victor Massé de Lépinay qui a préparé cette semaine avec nous et avec nos quatre invités. Jean-Pierre Jaffray, il sera en duplex depuis les studios de Radio France à Nantes. Qui l'accueille? Il est linguiste de l'écrit. Il a été longtemps 20 ans au CNRS. Il est auteur avec Michel Fayolle de l'orthographe au PUF en 2014. Daniel Cogis est avec nous. Elle est linguiste de l'écrit et de l'acquisition. Elle a longtemps été maître de conférences à l'IEFM de Paris et elle a écrit avec Catherine Brissot « Comment enseigner l'orthographe aujourd'hui ?» C'était chez Attier en 2011. Fabrice Jessic est chercheur au CNRS, ingénieur de recherche au CNRS en laboratoire de médiévistique occidentale de Paris. Il est l'auteur des rectifications orthographique de 1990 aux presses universitaires d'Orléans, c'était en 2006, mais également plus récemment en 2013 chez Champion de l'orthographe en quatre temps au 20e anniversaire des rectifications de l'orthographe de 1990. Et enfin, Gabriella Parussa est avec nous, elle est professeure à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et elle est auteure avec Yvonne Casal chez Armand Collin l'année dernière, en 2015, de « Introduction à l'histoire de l'orthographe ».
Des moutons étaient en sûreté dans un parc. Des moutons. Voyons, mon enfant, faites un effort. Était hunt. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton. Il y avait plusieurs moutons.
Je rigole, effectivement, je ris à cet extrait de Topaz qui nous permet d'introduire, bonjour Victor Massé de Lépinay.
Bonjour Emmanuel.
Il a été choisi par Véronique Samuilov, notre réalisatrice, d'introduire le sujet du jour, à savoir l'histoire des réformes de l'orthographe avec cette fameuse dictée où on épelle tout pour qu'au bout du compte, les élèves, et un élève en particulier, puissent ne pas faire de faute d'orthographe. Fabrice Jessic, ça vous a fait rire aussi?
Oui, ça m'a bien amusé. Et je trouve que c'est bien de commencer par cet exemple. Voilà.
Un exemple qui nous permet de dire effectivement que l'orthographe, Jean-Pierre Jaffray, ne correspond pas toujours à ce que l'on... D'ailleurs, c'est assez rare, à ce que l'on dit à l'oral, poser une langue à l'écrit, on le disait lundi, avec notre invité à propos d'Émile Benveniste, ça n'est pas si simple et il y a des choix qui sont des choix de long terme qui ont été faits par différentes langues depuis la formation de ces langues aux alentours du Moyen-Âge, Jean-Pierre Jaffray.
Oui, enfin, ça dépend des langues. C'est-à-dire, le rapport entre l'oral et l'écrit est déterminé aussi par la structure des langues. Il y a des langues pour lesquelles la relation est plus, disons, satisfaisante. On parle d'orthographe transparente. Nous, on a moins de chance parce qu'on a une morphologie.
Donnez-nous des exemples d'orthographe transparente, comme ça, ça permettra...
Vous savez, toutes les langues romanes, l'espagnol, l'italien, le roumain, l'occitan... Et le français...
Vous n'incluez pas le français dans ces langues romanes, alors, dans le coup ?
Non, parce que le français a une histoire un peu particulière, avec une influence franque notamment, qui lui a donné une structure, disons, une montée en puissance de l'homophonie. C'est la raison pour laquelle l'écrit a été utilisé pour distinguer les homophones. Il suffit de comparer les conjugaisons pour s'en rendre compte. Ça varie avec les langues, en fait, avec les structures.
Gabriela Parussa.
Oui, en fait, ce qui se passe pour le français, c'est que l'évolution phonétique a été telle que, par exemple, les consonnes finales cessent d'être prononcées aux alentours de 1200, grosso modo, pour simplifier. Et comme on l'a entendu tout à l'heure dans l'extrait qui vient d'être lu, on ne prononce donc plus le S final du pluriel. Et alors qu'on continue de l'écrire, et pour cause, il est nécessaire, en tout cas à l'écrit, pour le pluriel, pour la, comme marque de pluriel. Et du coup, le français est une langue où on prononce de moins en moins de consonnes, mais on continue à l'écrire pour différentes raisons sur lesquelles on...
Et en quoi justement cette double influence du latin et de la langue franque ou des langues franques a-t-il à voir avec justement cette difficulté à transcrire cette langue et à la rendre sur le papier, pourrait-on dire, ou sur le parchemin, Jean-Pierre Jaffré ?
Ben, je crois que c'est une question d'accent, c'est-à-dire que le franc étant une langue germanique, d'origine germanique, a provoqué le déplacement de l'accent et donc un certain nombre de syllabes se sont trouvées atones, comme on dit dans notre jargon, et donc ont perdu cette espèce de sonorité qu'on trouve à la finale des mots, comme en espagnol ou en italien.
Oui, et vous prenez comme exemple, par exemple, effectivement, des difficultés qu'il peut y avoir à comprendre le masculin ou le féminin. Je sais pas si c'est vous ou un autre des articles que j'ai lus qui explique que René est... pour le masculin et René et E pour le féminin, il faut le E pour comprendre que c'est un féminin, alors que Renato et Renata en italien, c'est beaucoup plus simple puisque on sait tout de suite si c'est un garçon ou une fille dont on parle. Victor, allez-y Jean-Pierre Jaffré.
Non, mais tout vient de là. Oui, la vraie difficulté de l'orthographe du français, elle naît là. Quand se forme cette espèce de support graphique spécifique qu'on ne trouve pas dans d'autres langues romanes.
Victor Massé de l'Épinay.
Oui, la difficulté du français vient aussi de l'alphabet qu'on a choisi pour retranscrire ce qu'on entendait. Enfin, c'est pas que ça l'écriture, mais l'alphabet latin, c'est-à-dire 22 lettres. Jean-Pierre Jaffré, c'est vous dans un article qui dites que cet alphabet latin, c'est un cheval de Troie culturel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça?
Eh bien, c'est-à-dire que, comme toujours dans l'histoire de l'écriture et des orthographes, les gens qui créent des orthographes nouvelles empruntent la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas de systèmes qui sont... Enfin, ça arrive, mais c'est relativement rare qu'on ait des systèmes qui soient créés de toutes pièces. Donc, il y a un système d'influence et, d'une certaine manière, c'est un rapport entre dominant-dominé. Nous, c'était le latin. Dans d'autres zones du monde, c'était le chinois. Il y a une influence. Mais cette influence-là que vous notez, elle n'est pas propre aux Français. On la retrouve aussi en anglais, on la retrouve dans les langues germaniques. Il y a toujours une espèce de... dans les inventaires de l'écrit, il y a toujours un nombre moins important de lettres que de phonèmes, quoi.
Et alors ?
Ben donc ça crée une distorsion. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on est obligé de trouver des combinaisons. C'est-à-dire que personne n'a eu le courage de créer véritablement un alphabet qui soit adéquat, qui corresponde au nombre de phonèmes, 30, 33, 34 en français. Il aurait fallu effectivement un alphabet à une trentaine de lettres.
Et avec
on en est resté à la...
Voilà. Et avec une trentaine de lettres, on s'en serait tiré. C'est ce que vous voulez dire, Jean-Pierre Jaffré. On n'aurait pas de discussion permanente sur la question de l'orthographe.
Non, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. De toute façon, en français, on a un problème avec l'homophonie. C'est-à-dire que vous avez on a aussi ça dans d'autres langues. À partir du moment où vous avez un taux d'homophone relativement important, il y a une tendance historique à compenser ce phénomène structurel par une information écrite.
Oui, donc c'est-à-dire date avec un seul T et date avec deux T. C'est ce que vous appelez une homophonie, en l'occurrence, Jean-Pierre Jaffré.
Homophonie, écoutez, regardez conjuguer le verbe, je sais pas, aimer par exemple au présent de l'indicatif, vous verrez qu'en français vous avez j'aime, tu aimes, il aime, ils aiment. Automatiquement, il y a une homophonie extrêmement importante et donc qui est compensée à l'écrit.
Daniel Cogis.
Sur l'homophonie, on peut se rendre compte à quel point elle est forte quand on s'amuse maintenant à dicter sur son téléphone portable. On se rend compte de la manière dont c'est compris et on voit à quel point il y a de l'homophonie
dans la langue française,
dans la langue et en discours. C'est-à-dire il y a non seulement les mots qui sont homophones, mais quand on parle, l'agencement des mots entre eux crée énormément d'homophonie et on est parfois extrêmement surpris parce que vous renvoie
les transcripteurs, pourrait-on dire, de la langue à l'écrit. Gabriela Paroussa et Fabrice Jessic ensuite.
Oui, j'aurais juste voulu ajouter que d'un point de vue historique, le problème d'une non-adéquation entre l'alphabet latin et la langue que l'on parle est encore plus aiguë au moment où on se met à mettre par écrit le français. C'est-à-dire qu'on sait qu'en l'ancien français, on a à peu près une cinquantaine de phonèmes et on a à sa disposition, les copistes ont à leur disposition un alphabet qui fait à peu près 22, 23 jusqu'à 26 lettres. Et surtout, ils doivent transcrire des nouveaux sons, comme le E ou le U antérieur,
qui n'existe pas
en latin et qui n'ont donc pas de lettres adéquates. Et ils bricolent, si je peux dire, les copistes bricolent et donc utilisent les cinq voyelles pour essayer de rendre à l'écrit ce qu'ils entendent.
Le O dans le E vient de là, par exemple
ou Oui, pas, ça... on écrit O suivi de E, qui ne sont pas encore collés. On écrit EU. C'est ce qui fait la variabilité des graphies médiévales.
Fabrice Gestic.
Oui, je voulais juste reprendre les exemples de Jean-Pierre Jaffray à propos du verbe aimer. C'est vrai que le verbe aimer est homophone, et en fait, ce qui est discriminant, c'est la présence du pronom personnel. Quand on dit j'aime, tu aimes, il aime, ils aiment, vous voyez, donc c'est vraiment le pronom personnel qui distingue les formes verbales. Et par exemple, pour le dernier exemple au pluriel, ils aiment, si le verbe commence par une consonne, à ce moment-là, il n'y a plus ce Z qui indique que c'est la sixième personne.
Alors, Gabriel Aparoussa, vous m'avez dit tout à l'heure, avant l'émission, je commençais à dire, on va parler des réformes des langues à partir du XVIe et du XVIIe siècle. Vous m'avez dit, quoi, pas le Moyen-Âge. Pourquoi peut-on parler déjà de réforme de la langue ou de débat entre ceux qui doivent transcrire la langue française en formation, déjà formée mais en évolution, au Moyen-Âge, Gabriel Aparoussa?
Oui, on ne peut pas parler de débat, ni de réforme.
Et ni d'orthographe, même, d'ailleurs.
Et ni d'orthographe. Parce que, voilà. On peut parler de système graphique. Et quand j'essaye de présenter le Moyen-Âge à mes étudiants, je leur dis que c'est une période de grande liberté. Autrement dit, il n'y a pas de normes explicites écrites. Mais ça ne veut pas dire qu'on écrit n'importe comment. Depuis les premiers textes, donc 9e siècle jusqu'au...
Depuis Nithard, dont on a parlé mardi dans le documentaire.
La séquence des Saint-Eulalie, jusqu'au à la fin du 15e siècle, les copistes ont une liberté relative dans la mesure où deux copistes n'écrivent pas de la même manière, même quand ils travaillent dans la même ville, par exemple, et le même copiste à l'intérieur d'un même scriptorium peut, par exemple, écrire le même mot de deux manières différentes, ou la même forme verbale de deux manières différentes. Ça n'empêche pas du tout la compréhension et la communication.
Et personne ne lui tape sur les doigts, en l'occurrence.
Personne ne lui tape sur les doigts.
Oui, c'est assez étrange. Victor Massé de Lépinay.
Oui, vous montrez par exemple dans les textes en rime que les copistes montrent dans les terminaisons, montrent la rime visuellement. Et donc vous commencez à nous montrer qu'au XVe siècle se pose cette question de est-ce que l'orthographe est faite pour l'oreille ou est-ce qu'elle est faite pour l'œil ? Mais toutes ces questions d'homonymie dont on parle depuis tout à l'heure, quand est-ce qu'on a commencé à considérer que c'était un problème, puisque finalement... Qu'on écrive « j'aime » ou « tu aimes » sans distinction, on comprend bien ce qu'on lit. Quand on le lit, on n'a pas besoin d'avoir visuellement quelque chose qui marque la différence. Quand est-ce qu'on s'est dit il faut marquer les différences visuellement ?
Gabriel Aparoussa.
C'est difficile à dire à quel moment on a pris conscience du problème. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du XVIe siècle, on en parle. Dans le débat orthographique, c'est quelque chose qui revient régulièrement. L'idée que à la rime, par exemple, on utilise souvent des graphies qui sont identiques pour montrer que justement les deux mots non seulement sont identiques du point de vue phonique, mais graphique, est quelque chose qui est là depuis longtemps, mais de manière vraiment consciente, on ne voit cela qu'à partir du XVIe siècle, à partir des premiers débats sur l'orthographe. Ce qui est certain, c'est que cette homographie pose pose un véritable problème, et que, à mon sens, c'est l'une des raisons pour lesquelles les réformes qu'on a proposées au XVIe siècle n'ont pas fonctionné. Parce qu'on s'est rendu compte que si on écrit de manière plus phonétique, on se retrouve avec des homographes. Donc des mots que non seulement on prononce de la même manière, mais qu'on écrit de la même manière.
Oui, alors ça c'est une grande discussion. Il faut citer les travaux de Suzanne Baddeley sur ces questions-là. Mmh. Elle a beaucoup travaillé sur ce 16e et 17e siècle. On découvre en la lisant combien, effectivement, bien avant le premier dictionnaire de l'Académie en 1694, eh bien les débats entre des hôtels et Maigret, par exemple, au milieu du 16e siècle, sont des batailles justement sur l'orthographe, par exemple, pour savoir s'il faut ou pas inscrire ou transcrire les diphtongues dans les mots du français courant. Et puis, on voit déjà aussi poindre, d'après les travaux de Suzanne Baddeley, à ce moment-là, des débats sur ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste, ce qui est licite et ce qui n'est pas licite, par exemple, autour des travaux de Robert Estienne, qui va, par ailleurs, épouser la religion prétendue réformée, comme on l'a appelé plus tard sous Louis XIV. Et c'était le thème de notre semaine la semaine dernière. Et effectivement, on voit qu'il y a des débats entre catholiques et protestants sur la façon d'écrire. Est-ce que c'est hérétique ou pas hérétique d'écrire de telle ou telle manière ? Sur ce point, Fabrice Jessic, est-ce qu'on peut avancer des choses autour de ces débats du XVIe siècle qui sont nombreux et qui précèdent, pourrait-on dire, une sorte de fixation de la langue par le dictionnaire de l'Académie à la fin du XVIIe siècle ?
Oui, oui. Alors, je crois que le débat, en fait, il a surtout été amorcé par les imprimeurs. Hein, les imprimeurs, bon, étaient face à des problèmes techniques. Donc, ils avaient beaucoup de problèmes techniques à résoudre. Et je crois que c'est de là qu'est parti le débat. Et ensuite, ça a été enchaîné avec les dictionnaires de l'Académie. Mais disons que, si vous voulez, là, il y a un point important, me semble-t-il, c'est que l'Académie a toujours été en décalage par rapport aux usages émergents. Mmh. Hein, en gros, les décalages sont de l'ordre de 25 à 50 années. Et en fait, ce que l'imprimerie fait à un moment donné, en gros, l'Académie le fait avec je dirais pas un retard, mais disons, elle enregistre l'usage entre 3 à 5 décennies plus tard.
Mais ces débats sont passionnants au XVIe, XVIIe siècle, Gabriel Paroussin. Parce que, effectivement, on voit des camps se créer, oui. Qui sont d'ailleurs des camps qui sont pas très éloignés de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Ceux qui disent il faut une langue qui soit la plus proche de l'étymologie latine, par exemple, et ceux qui disent au contraire il faut s'en éloigner. Ce sont des débats qui sont extrêmement présents. Je citais Robert Estienne, mais la polémique Maigret des hôtels, les positions de Ronsard, celles de Dubellé, évidemment, qui sont connues. Plus tard, la brève doctrine, ou encore Antoine Houdin et d'autres qui débattent tous ensemble autour de ces questions-là, Gabriela Paroussa.
Oui, le XVIe siècle est une époque de grande effervescence pour l'orthographe. Je dirais qu'il y a deux acteurs principaux. D'un côté, on l'a vu, ce sont les imprimeurs. Mais les imprimeurs se trouvent face à une difficulté particulière qui n'était pas, que ne rencontrent pas les copistes du Moyen-Âge. C'est qu'ils produisent des livres en grande quantité. Et qu'ils sont donc, que ces livres produits en grande quantité vont être lus par des lecteurs qu'ils ne connaissent pas forcément. Autrement dit, quand on fait un manuscrit, on sait pour qui il est fait et dans quel milieu il va être lu. Alors que pour un livre, ce n'est pas la même chose.
Et donc, il faut plus ou moins une sorte
d'uniformisation et de standardisation. Ouais. Et donc, c'est pour ça que ça part des imprimeurs.
Fabrice Jessic, et puis ensuite, je redonne la parole à Jean-Pierre Jaffray et à Daniel Cogis. Fabrice Jessic.
Oui, je voulais donc rebondir là-dessus et en fait citer aussi les travaux de Liselotte Biderman-Pasque qui, elle, a fait une thèse sur les courants orthographiques au XVIIe siècle. Et évidemment, il y a eu ce débat, si vous voulez, au moment de l'imprimerie. Mais après, avec la mise en place de l'Académie française, le débat a continué. Mm-hmm. Hein, et donc, l'Académie devait choisir une orthographe. Et était bien consciente de tous les débats. Alors, il y avait des courants plus ou moins traditionalistes, des courants plus ou moins modernistes, des courants plus ou moins phonétistes. Et en fait, cette thèse, elle fait la synthèse de ça. Et elle montre aussi comment, au final, l'Académie a choisi l'orthographe ancienne.
Oui. Et donc, sur ce point, Jean-Pierre Jaffray.
Écoutez, moi, je mettrais un grain de sel sociolinguistique parce que, Il ne faut pas surtout donner l'impression que les débats du 16e, du 17e jusqu'au 19e ressemblent aux débats qu'on a aujourd'hui. Il y a un acteur aujourd'hui avec lequel il faut compter, et qui n'était, ça n'était pas le cas certainement au 16e, au 17e, ce sont les usagers. Il faut bien voir que la formation de l'orthographe au 16e en particulier, c'est quand même une affaire de happy few. Quoi. Oui. C'est quand même une élite, des gens qui travaillent entre eux. Et si on remonte au Moyen-Âge, c'est vraiment une affaire de professionnels. De gens qui écrivent, il n'y a pas du tout. Il faut attendre la Révolution pour qu'il y ait un travail sur la langue et ensuite, avec l'école, un travail sur l'orthographe. Parce que moi, je pense qu'il ne faut pas confondre les deux. Il ne faut pas confondre la langue et l'orthographe.
Bien sûr. C'est
pas, on parle souvent de langue aujourd'hui qui serait. Détruite en quelque sorte par les tentatives de rectification. Alors, on ne parle que de l'orthographe, on ne parle pas de la langue.
Bien sûr, quoi. Oui, il faut citer, pour venir donner de l'eau à votre moulin, Jean-Pierre Jaffray, les cahiers de Mézeray, évidemment, celui qui met en place le premier dictionnaire de l'Académie. Il écrit en 1673, la Compagnie, donc l'Académie, déclare qu'elle désire suivre l'ancienne orthographe qui distingue les gens de lettres d'avec les ignorants et les simples femmes. Vous voulez réagir à cette question, Daniel Cogis, et à ce débat que nous avons lancé.
Oui, parce que cette question de l'élitisme, Elle va réapparaître tout au long des débats sur les réformes. Par exemple, lors de la préparation du projet de réforme d'Aristide Bellay en 1952, un des membres de la commission, Edmond Farral, c'est Nina Katache qui rapporte cela, quitte la commission, ou peut-être François de Clauzet, qui a pas mal travaillé la question, quitte la commission, puis se met à se moquer, à dire « je ne veux pas écrire comme ma cuisinière ». Et Jules Romain écrit dans le Figaro littéraire, le Figaro joue un rôle particulier dans les histoires de projets de réforme
avancés. On le voit jusqu'à aujourd'hui, effectivement.
Jusqu'à aujourd'hui. Il écrit dans toujours pareil en 1952, Monsieur Marcel Cohen, donc le grand linguiste Marcel Cohen, veut écrire comme sa cuisinière. Ça, au passage, la dictée sur ma tablette a été écrite CCDIA.
Oui, c'est bon, ça, quand vous
ce
l'avez.
Que je voulais dire tout à l'heure. Bon. Donc il y a cette idée qu'il faut être, l'orthographe doit distinguer. Et on entend exactement ce type de débat aujourd'hui.
Fabrice Jessic, et puis une question de Victor Massé de l'Épinay.
Oui, je voulais juste, à propos de tout le bruit qu'il y a eu aujourd'hui dans les médias, en fait, le Figaro a lancé un questionnaire très intéressant qui montre... Alors, ce questionnaire montre que finalement, 67% des Français qui ont répondu...
Des lecteurs du Figaro qui ont répondu.
Des lecteurs du Figaro qui ont répondu, mais c'était une enquête sur Internet. Il y a eu quand même 25 000 personnes qui ont participé. Ouais. Et donc, à 67%, ils ont utilisé les graphies rectifiées. Ce qui montre, si vous voulez, que l'usage l'usage est préférentiel pour les graphies rectifiées, mais que bien souvent, les gens ne savent pas qu'il est pratique.
Alors, vous allez un peu vite en besogne pour nous amener jusqu'à aujourd'hui, mais on va faire le travail d'histoire donc tout au long de ces siècles qui nous séparent du premier dictionnaire de l'Académie à la fin du XVIIe siècle. Victor Massé de l'Épinay.
Oui, encore un tout petit peu avant le XVIIe siècle, dans ce XVIe qui commence à se poser des questions et qui commence à voir émerger des tentatives d'harmonisation ou de normalisation, que ce soit Marot, que ce soit Estienne dont on a parlé, ces gens-là à la fois essayent de fixer un canon ou des normes, mais eux-mêmes continuent à écrire, y compris dans le même texte, les mots de manière très différente. On voyait Estienne qui écrit féminin O-E, féminin, dans le même texte féminin avec un accent, dans le même texte féminin. Et cette liberté, c'est quelque chose qui n'est pas contradictoire pour ces gens-là avec une volonté d'harmoniser ou de fixer des règles.
Gabriela Paroussa.
Non, la liberté continue. Quand on regarde les imprimés du XVIe siècle, on voit bien qu'il n'y a pas encore une norme explicite. Et il faudra attendre le XIXe siècle pour une norme. Il faudra attendre le XIXe siècle pour que l'orthographe devienne un problème. Et que dans les écrits, même les écrits privés, on trouve des références à l'orthographe comme problème
à résoudre.
Il y a des mots, des masses de mots. Il y a des mots, des massiados. Il y a des des mots comme s'il en pleuvait. Y a des mots comme tes pierrots, y a des mots, c'est des couteaux, qui te matent en silencio. Mais pour ce qu'il y a entre sa peau et ma peau, y a pas de mots. Y'a pas de mots qui tiennent ni même celui-là.
France Culture,
la fabrique de l'histoire.
Emmanuel Laurentin.
Les mots par le groupe La Tordue. Alors Fabrice Jessic, venons-en à ce premier dictionnaire de l'Académie qui déjà, par rapport au dictionnaire de Nicot, je crois, en 1606, a déjà beaucoup travailler la graphie des mots du français, a déjà beaucoup fait évoluer cette graphie pour la normer, mais entre le premier dictionnaire de l'Académie en 1694 et par exemple le troisième dictionnaire de l'Académie au milieu de la première moitié du 18e siècle, là, ça change beaucoup. 25% des mots, oui, des graphies, oui, changent
plus,
en l'occurrence.
Même plus, hein, on arrive à 36% de modifications orthographiques dans la troisième édition de 1740. Voilà, c'est là où sont introduits massivement l'accentuation du français.
Et en particulier le fameux accent circonflexe, voilà, dont on débat encore aujourd'hui.
Voilà, exactement. Et donc cet accent circonflexe...
C'est-à-dire qu'avant 1740, il y a très peu d'accents circonflexes ou il n'y en a pas du tout?
Il n'y en a pas du tout.
Gabriel, par où ça?
Il y en a quelques-uns. Tory est le premier à utiliser, donc en 1529, dans son Chantefleurie, l'accent circonflexe, mais il l'utilise pour noter la longueur de la voyelle, les voyelles longues, voilà. Et Dubois l'utilise aussi, mais pour noter deux lettres qu'il faut lire ensemble. Donc AI, il faut le lire E, et donc il met un petit accent circonflexe.
D'accord, mais l'accent circonflexe avec ce que ça dit aujourd'hui, c'est-à-dire la disparition du S, par exemple.
Au dictionnaire de l'Académie, oui, évidemment. Et ce que je voulais également signaler, c'est que, par exemple, la première édition du dictionnaire de l'Académie ne faisait pas encore la distinction entre I et J et U et V. Mmh. Hein, ça a été fait dans la seconde édition, donc de 1718, où on a introduit cette distinction. Donc, pour aller très vite, on peut dire qu'il y a eu une première très très grande réforme, donc c'est en 1740, la troisième édition. Et enfin, une dernière réforme aussi qui me paraît très importante, c'est celle de 1835, hein, la septième édition, où le OI a été écrit AI. Alors que la prononciation...
Oui, la foible monnaie angloise, qu'on prononçait déjà la faible monnaie anglaise...
Et ça, depuis le XIIIe siècle, on a des attestations qui montrent que depuis le XIIIe siècle, le OI était prononcé E.
Victor Massé de Lépinay.
Est-ce que l'Académie écrivant, faisant ce dictionnaire en 1740, tout ce qui est imprimé dans les années qui suivent immédiatement ce dictionnaire tient compte de ces réformes orthographiques?
Oui, et je dirais même, bien souvent, ça les précède. Donc là, je suis tout à fait d'accord avec ce que venait de dire Gabriela Paroussa. C'est-à-dire qu'en fait, l'Académie enregistrait des usages qui étaient déjà dans l'imprimerie.
Oui, c'est-à-dire que les imprimeurs font déjà le travail d'une certaine façon. Et l'Académie norme définitivement la question.
Et en fait, enregistre l'usage, hein, puisqu'on dit que l'Académie est le greffier de l'usage.
Mm-hmm. Voilà. Gabriela Paroussa, vous vouliez ajouter quelque chose?
J'aurais juste voulu ajouter quelque chose sur l'histoire de l'accent circonflexe, parce que c'est une belle histoire. Au XVIIe siècle, aujourd'hui on croit que l'identité du français est liée à cet accent d'une certaine manière, c'est ce qu'on dit en tout cas, ce qu'on entend et qu'on lit dans les journaux. Cet accent, il a eu beaucoup de mal à s'imposer, et dans les cahiers de Mézeray, on peut lire que cet accent circonflexe n'est pas accepté et qu'on le considérait un chevron mal gracieux.
Oui, et donc il est tellement mal accepté que par exemple Popek, dans sa leçon de français, l'utilise.
Je suis en colère parce que mon fils a encore eu un zéro. Alors voilà un exemple de la mesquinerie de cette professeure-là. Mon fils a oublié le chapeau circonné. Mais non, pas circoncis, qu'est-ce que vous avez soufflé des bêtises? Circonflexe, merci madame. Si, a oublié le chapeau circonflexe sur le E de bête. Tout le monde comprend que le mot bête, avec ou sans chapeau, ça c'est libette. C'est comme si moi j'ai sorti sans mon chapeau. On ne me confondrait pas avec Schwarzenegger. Alors que si mon fils avait mis le chapeau, et oublié la lettre en dessous, là oui, il y a faute. C'est comme si mon chapeau sortait sans moi.
Oui, si on met l'accent circonflexe sans la lettre en dessous, effectivement, ça fait une faute. Jean-Pierre Jaffré, vous n'êtes pas intervenu depuis un certain temps sur ces questions, cette façon dont c'est structuré, pourrait-on dire, la norme de la langue à travers ces dictionnaires de l'Académie qui, on l'a bien compris, enregistrent l'usage, mais en même temps, norme la langue pour permettre d'avancer, en l'occurrence. Et la place peut-être de l'État, parce que vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un nouvel acteur, à savoir les opinions publiques aujourd'hui, pour pouvoir réagir à ces questions des réformes orthographiques et la société. Mais là, on voit effectivement le poids aussi peut-être de l'État royal dans ces questions-là.
Oui, bien sûr. De toute façon, en France, tout ce qui touche au problème de l'orthographe a toujours eu une connotation étatique. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, on a toujours ce problème. Il y a un débat pour savoir qui décide de quoi. Alors, d'accord avec l'Académie comme greffier de l'usage. À propos de l'accent circonflexe, je me suis même laissé dire que l'Académie, au moment d'adopter l'accent circonflexe, a eu un petit souci parce que, en fait, les imprimeurs protestants qui étaient aux Pays-Bas à ce moment-là l'utilisaient pas mal. Et je pense qu'il y avait même une connotation, un frein religieux en quelque sorte. Le fait que les protestants l'utilisent beaucoup ennuyait un petit peu l'Académie, oui, ce qui fait qu'elle l'a accepté du bout des lèvres.
Oui, il faut se souvenir qu'Antoine Houdin disait en 1633, donc un siècle plus tôt, que quelques modernes qui sans aucune considération se sont mêlés de réformer, mais plutôt de renverser notre orthographe. Il accusait effectivement les réformateurs, les protestants, d'être aussi ceux qui allaient renverser la langue et l'orthographe dans son acception. Mais vous dites aussi, Jean-Pierre Jaffré, que le fait que l'Académie accepte donc cet accent circonflexe, c'était un signe d'une grande modernité, dites-vous, en 1740, et que c'est d'une certaine façon absolument une ouverture de la part de l'Académie que d'accepter l'accent circonflexe, alors qu'aujourd'hui, c'est un débat sur clôture-fermeture.
Mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a une ligne de rupture entre les éditions du dictionnaire de l'Académie. Et cette ligne de rupture, c'est la fin du XVIIIe et plus particulièrement la Révolution, où on se rend bien compte que à partir du début du XIXe siècle, l'Académie est plus une force conservatrice qu'une une force réformatrice, en fait. Oui.
Fabrice Jessic, vous êtes d'accord ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Disons que je ne sais pas si on passe directement à la période moderne.
Allez-y.
Et je crois que c'était vrai jusqu'en 1990, puisque là, avec le Conseil supérieur de la langue française mis en place par Michel Rocard, il y a eu effectivement la rencontre entre les linguistes, l'Académie, qui ont réussi à trouver un consensus.
C'est pas ce que j'ai cru entendre dans le débat contemporain.
J'ai cru entendre
que la secrétaire permanente de l'Académie dit cela. Que l'Académie française n'était pas partie prenante de cette affaire, en l'occurrence, mais elle était bien partie prenante de cette réforme orthographique.
Oui, tout à fait. Et en fait, il y a eu vraiment un travail qui s'est fait en commun. Les dossiers étaient passés de l'Académie vers le Conseil supérieur de la langue française. Maurice Druon était tout à fait au courant et soutenait ce travail. Et ça, je crois qu'il faut insister là-dessus. Et en fait, si vous voulez, de ce point de vue-là, on ne peut pas parler de réforme. Hein, on ne peut parler que de rectification. Et les rectifications vont en fait dans le sens de, je dirais, du fonctionnement général de l'orthographe qui a beaucoup de parties tout à fait cohérentes en fonctionnement logique. Et donc, les rectifications
accentue
cette logique. Et c'est pour ça aussi que, quand j'ai cité tout à l'heure l'enquête du Figaro, en fait, ça démontre ça. Voyez,
ça démontre que
les gens les utilisent spontanément.
Daniel Cogis, vous qui travaillez
sur
ces
questions. Oui, il y a un lien important entre l'évolution de la société, l'évolution des techniques. On dit qu'au départ, l'idée de l'accent aigu avait du mal à se mettre en place parce que les imprimeurs avaient du mal à avoir des caractères, suffisamment de caractères accentués. Donc il y a une histoire technologique qui va de pair avec l'histoire et qui va ensuite être relayée.
Il faut toujours se mettre en tête effectivement que le passage de l'écrit et des copistes dont parlait tout à l'heure Gabriella Paroussa à l'imprimerie nécessite de créer des caractères spéciaux, et que la multiplication de ces caractères spéciaux est un ennui peut-être pour ceux qui impriment en particulier.
Oui. D'ailleurs il y a un effet encore aujourd'hui, la question de l'accentuation sur les majuscules. c'est également lié à des problèmes de ce type. Et alors, donc je disais l'histoire technologique, l'histoire du développement de l'école, du développement de la scolarisation. Un repère en 1818, c'est en 1818 seulement qu'on a demandé aux instituteurs d'avoir un brevet de certification qu'ils étaient capables de lire. Et au départ, ils n'enseignaient pas nécessairement à écrire. Et puis, de plus en plus de gens se sont mis à écrire. Et c'est là que s'exerce la tendance à l'uniformisation.
Tendance à l'uniformisation qui ne peut pas aller sans la volonté démocratique née de la Révolution française de faire en sorte que plus de gens participent à l'écriture de la langue, peut-être.
Oui,
on n'est plus comme dans l'anonyme de 1669 qui dit « mais quelle nécessité y a-t-il à ce qu'un artisan sache la langue comme un académicien, sache oui. écrire la langue comme un académicien ?»
Donc il y a à la fois beaucoup de résistance et en même temps beaucoup de nécessité. Au départ, l'orthographe, elle était faite pour lire et puis elle est devenue pour écrire. Il fallait que de plus en plus d'enfants sachent écrire sans avoir de modèle. Et tout cela converge jusqu'à la loi de Guizot en 1833, qui exige, pour ce qu'on pourrait appeler, avec peut-être un anachronisme, la fonction publique, que tous aient un certificat, enfin un niveau d'orthographe certifié.
Victor Massé-Lépiné.
Il y a une question, un point précis qui traverse un peu toutes ces réformes de l'orthographe jusqu'à celle de 90 ou d'aujourd'hui. C'est la question, pour certains mots, des marqueurs étymologiques, des lettres qui viennent du latin. Je ne crois pas qu'il y ait une réforme prévue pour le mot « doigt », par exemple, qui a « jeté » à la fin, ou pour « temps » qui vient de « tempus ». Mais cette question-là, aujourd'hui, elle agite pas mal les hystéries, mais enfin les passions. Et elle existe depuis Bossuet qui disait il faut supprimer ces lettres vicieuses qui nous montrent les choses du latin. Bossuet qui n'était pas la figure du réformateur, enfin qui passe pas pour tel aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce rapport de la langue à son étymologie dans les réformes de l'orthographe depuis le XVIIe, mais jusqu'à celle d'aujourd'hui?
Daniel Cogis, et puis je donnerai ensuite la parole à Jean-Pierre Jaffray, à Fabrice Jessic et à Gabriela Paroussa.
C'est un point important parce que on oublie à quel point certains parlent de bilinguisme pour tous les lettrés du XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe. Tout le monde connaissait le latin. Une orthographe qui conserve des lettres étymologiques est une orthographe commode et familière pour tous ceux qui connaissent le latin. L'orthographe du français, c'est André Charvel qui rapporte cela, était tellement compliquée au XVIIe siècle, par exemple, qu'on enseignait à lire en latin. Parce qu'en latin, vous avez une lettre correspond à un son. Donc, une fois que les élèves étaient débrouillés, on pouvait passer au français. Mais cette familiarité, donc, effectivement, conserver des lettres étymologiques d'origine latine favorise les élèves qui viennent d'un certain milieu social.
Oui, débat, par exemple, au XVIIe siècle, sur l'apprentissage de la langue pour les étrangers. Si on apprend à des marchands, eh bien, les marchands, ils n'ont pas besoin de savoir écrire particulièrement bien la langue française. Si on apprend à des fils de princes de cours étrangères ou des filles de princes de cours étrangères, on se dit, bah, puisqu'ils connaissent le latin, on va leur apprendre une manière et une graphie particulière de la langue.
Et si on pousse ça jusqu'au bout, et c'est ce qu'on entend, pour pouvoir comprendre le français, il faut d'abord apprendre le latin. Mmh. Il y en a qui soutiennent encore cette idée-là.
Jean-Pierre Jaffray.
Oui, bien alors sur l'étymologie d'abord, si vous voulez, le débat est toujours faussé parce qu'on a toujours l'impression que les mots, en quelque sorte, colportent leur histoire. Mais justement, l'histoire de l'orthographe montre que l'usage qu'on a fait de l'étymologie était un usage beaucoup plus moderne, que ça a beaucoup plus tourné vers le lecteur et qu'en fait... Et d'ailleurs, les fausses étymologies sont très nombreuses en orthographe. Mmh. Hein. On a utilisé justement l'étymologie et la connaissance du latin pour distinguer les homophones. J'en reviens toujours à ça parce que c'est ça le véritable point noir. On aurait pu, au fond, ne pas distinguer les homophones. Il y a d'autres langues. Ce débat-là, il a eu lieu aussi à propos du chinois. Dans la mesure où le contexte la plupart du temps, désambiguise, à condition que le contexte soit suffisamment large. Mmh. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'on est dans une société où, quand vous prenez les titres de la presse, par exemple, très souvent, l'absence d'un accent ou d'un accord introduit de la confusion. Mmh. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une information visuelle, visiographique,
très ramassé. Et l'orthographe joue très bien ce rôle-là. Et il y a quelqu'un qui a écrit un ouvrage que je trouve, moi, splendide là-dessus. C'est Monsieur Cerchiglini, qui a fait un livre sur... Bernard Cerchiglini, oui, qui a fait un ouvrage dans les années 90, en 96, je crois, qui décrit justement la formation visuographique de l'orthographe et comment est-ce qu'on a puisé dans l'étymologie. Mais à ce moment-là, les gens qui ont fait ça n'avaient pas le souci de respecter le latin, mais véritablement d'utiliser le latin à des fins fonctionnelles, à des fins visuographiques. Mais et ça fait quand même un sacré bémol.
Victor Massé d'Épinay.
Oui, c'est pour ça que, pour reprendre les exemples que je disais tout à l'heure, on écrit « doigt » avec un « g » et un « t » pour montrer l'étymologie « digitus » ou « temps » pour montrer que ça vient de « tempus », mais que, pour reprendre Bossuet, on n'écrit pas « écripture » ou « nuict » pour dire « la nuit » pour montrer l'étymologie parce qu'il n'y en a pas besoin.
Mais Gabriela Paloussa oui, mais... et Fabrice Jessic.
Oui, je voudrais dire à propos des lettres étymologiques que au Moyen Âge, la structure étymologique de la langue écrite est indéniable, mais il ne faut pas oublier que déjà au Moyen Âge, ces lettres avaient d'autres fonctions. C'est-à-dire, par exemple, on écrit doigt parce que on va faire une relation. Donc, ce sont des lettres dérivatives qui montrent qu'il y a une relation, par exemple, entre doigt et digital, ou entre on écrit temps. MPS, pour établir un lien paradigmatique avec temporel, temporisé,
temporalité, etc. Temporisé, voilà. etc. Fabrice Jessic.
Oui, je voulais aussi mettre un autre facteur en évidence. C'est aussi, en fait, dans la première édition du dictionnaire de l'Académie, la préface précise, si elle a choisi l'ancienne orthographe, c'est justement parce qu'elle voulait que le français ait une filiation noble. Hein, c'est-à-dire qu'on puisse le relier au latin, qu'on puisse le relier au grec, et je crois me souvenir même à l'hébreu. Donc, vous voyez, c'était quelque chose qui était recherché, donc fallait il fallait à tout prix le défendre.
Daniel Cogis.
Oui, puisqu'on parlait du mot temps, j'ai lu dans la presse récemment que, en l'absence du P qui relie à temporel et à tempus latin, on ne peut pas comprendre le concept. Alors évidemment, quelqu'un comme Bossuet qui s'en passait est quelqu'un qui ne domine pas du tout la langue française, qui est tout à fait...
On le sait bien.
On pousse jusque-là. Ou si on, je ne sais pas combien il y a de personnes dans cette maison actuellement, mais si on prend tous les gens qui n'ont pas fait de latin, ils sont absolument incapables de contrôler le temps. Je pense qu'à la radio, on le contrôle...
C'est un peu notre travail. C'est la seule chose qu'on sache vraiment bien faire.
On va jusqu'à dire des choses comme cela. Alors... Ceci dit, on peut lui laisser son paix à temps aujourd'hui. Mais c'est quand on pousse les arguments jusqu'à ce point-là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment une impasse dans le raisonnement intellectuel.
Fabrice Jessic, alors tout de même c'est incroyable parce que tout cela démarre aujourd'hui de l'application d'une réforme qui a 25 ans, celle de 1990, qui est une réforme dont vous dites qu'elle n'est pas révolutionnaire, que c'est juste ce qu'on appellerait des rectifications orthographiques. C'est le titre du livre que vous avez publié avec d'autres en 2006 aux presses universitaires d'Orléans. Donc, ce sont des rectifications orthographiques qui sont théoriquement plus ou moins acceptées par l'Académie et par les linguistes de l'époque en 1990, qui ne sont toujours pas appliquées aujourd'hui et qu'on va décider d'appliquer à la rentrée prochaine. C'est cela, Daniel Cogis.
Oui, vous dites qu'elles ne sont pas appliquées, mais si. D'une certaine manière, on peut considérer qu'elles sont signalées dans tous les dictionnaires. Les correcteurs orthographiques, je pense que vous avez dû remarquer cela, que vers 2000...
Si j'écris nénuphar avec un F, ça corrige plus ?
Ça dépend ce que vous aurez fixé dans vos préférences.
Ah oui, c'est ça,
voilà. Si vous avez choisi le modèle appliquant les rectifications orthographiques, oui. Il faut savoir que la communauté française de Belgique est allée, au moment du 10e anniversaire des rectifications en 2000, ils commençaient à vouloir appliquer dans l'enseignement les rectifications. Et en 2000, je voudrais pas faire d'erreur, je crois que c'est 2008, les journaux belges ont choisi de proposer à leurs lecteurs de lire leurs articles en ligne, soit avec l'orthographe traditionnelle, soit avec l'orthographe moderne. Il y avait un...
Encore plus confusant, ça.
Non,
ça.
Parce que c'était très intéressant. Ils ont mis... une université avait mis au point un logiciel qui permettait la conversion. Ça s'appelait Recto Verso. Mmh. Vous choisissiez votre module et vous regardiez ce que ça donnait. J'ajoute que les dictionnaires français on signale les rectifications et parfois mettent les mots en entrée. Alors, quand la secrétaire...
Parfois, mais pas tout le temps.
Non, pas tout le temps, mais parfois. Quand la secrétaire perpétuelle de l'Académie française nous parle d'exhumation d'une réforme qui n'a pas été mise en œuvre, je crois qu'elle ignore que les dictionnaires actuellement publiés signalent ces rectifications.
Fabrice Jessic.
Oui. Alors, écoutez, juste une chose, c'est que dans cette enquête que nous avions faite avec Liselotte Biedermann-Pasque, en fait, on a fait cette enquête en francophonie du Nord, hein, c'est-à-dire Québec, Suisse, Belgique et France, et on s'est aperçu que, en fait, les gens appliquaient très très bien les rectifications, hormis l'accent circonflexe. Hein, là, donc là, il y avait vraiment une réticence, il y avait très peu de personnes qui maintenaient l'accent circonflexe parce qu'ils en avaient la connaissance. Et ensuite, on s'est aperçu aussi qu'il y avait une discordance entre, je dirais, ce qu'ils écrivaient et leur discours. Et en particulier, on s'est aperçu que les gens qui rectifiaient le plus les graphies avaient souvent le discours le plus conservateur. Vous voyez, donc ça veut dire qu'inconsciemment, ils les appliquaient. Et ça, c'est un phénomène intéressant.
Victor Marcel Lépiné.
Oui, c'est intéressant cette histoire de l'accent circonflexe, puisqu'on a quand même un petit peu évoqué, au fil des siècles et de ces fixations orthographiques, la notion d'usage. Là, on a peut-être l'impression que c'est une réforme ou des adaptations qui ne naissent pas forcément de l'usage. Est-ce que l'accent circonflexe, c'est un problème dont on s'empare en disant on va le supprimer ou le supprimer dans certains mots parce que ce sera plus simple? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on fait a priori et qui ne passe pas dans l'usage?
Daniel Cogis.
Je pense qu'il y avait à l'origine des propositions de 1990 peut-être deux intentions. La première était évidemment une rectification, et si on constate que les gens les appliquent, c'est à l'origine le principe sur lequel se sont fondés ceux qui ont fait ce travail. C'est-à-dire qu'ils sont partis des erreurs des gens, et là, ils ont essayé de régulariser. Donc, il n'est pas étonnant qu'à l'arrivée, on retrouve les gens appliquant. Un mot tout à fait spécifique, c'est par exemple « événement ». Le nombre de gens qui écrivaient naturellement « événement » avec un accent grave est impressionnant. Peu de gens savent que ça, dans l'orthographe traditionnelle, ça doit s'écrire avec un accent aigu, tout simplement parce qu'on l'a oublié à l'époque. Mais donc par rapport à cela, et puis alors la deuxième intention qui est importante, je crois que c'était remettre en mouvement l'idée qu'on pouvait toucher à l'orthographe, comme l'Académie française l'avait fait depuis toujours.
Oui, alors ça,
tout s'est figé en 1835, et là, il y a une intention de se dire que l'orthographe n'est pas la langue et qu'on peut modifier certaines choses.
On peut peut-être terminer les quelques minutes qui nous restent sur cette question-là, Jean-Pierre Jaffray. On a l'impression, quand on regarde comme ça, en vous lisant les uns et les autres, ces différentes façons de débat qu'il y a autour de la question de l'orthographe, qu'il y a des périodes qui sont plus propices que d'autres, des périodes où le changement plaît, et tout à l'heure Gabriela Paroussa nous expliquait qu'à un moment on pouvait accepter toutes les graphies, qu'il y avait des discussions assez ouvertes, et puis d'autres périodes où le changement déplaît et où effectivement on veut fixer définitivement une sorte d'ancrage de la langue dans son passé lointain. Est-ce qu'on serait pas justement dans une période tout simplement où ce changement déplaît, en tout cas à certains?
Oui, enfin, moi ce qui me frappe, si vous voulez, c'est la distorsion toujours qu'on observe entre le discours et l'usage, quoi. Récemment encore, il y a eu des enquêtes dans certains quotidiens là-dessus qui montrent que les gens sont contre ce qu'on continue d'appeler à tort la réforme, mais en fait éprouvent des difficultés pour écrire, ce qui est quand même un indice de masochisme.
On aime peut-être se faire mal.
Oui. Le problème qu'on a en France à l'heure actuelle, c'est qu'en fait on ne dispose pas, parce que la sociolinguistique est sous-représentée à l'université, et on ne dispose pas d'une enquête fiable sur les pratiques. On dit les gens écrivent comme ceci, les gens écrivent comme cela. En réalité, on n'en sait trop rien, parce qu'il faudrait vraiment pouvoir se donner les moyens de faire des enquêtes sociologiques qui soient fiables, de façon à ce qu'on ait des outils qui permettent de dire, voilà, bon, ces tendances-là, parce que vous voyez, c'est toujours des micro-enquêtes, c'est toujours du on-dit, il n'y a pas une tradition sociolinguistique qui permettrait de dire, voilà, l'usage. Alors, des collègues de Grenoble avait tenté ça il y a quelques années, mais ça n'a pas été suivi des faits et surtout ça ne s'est pas prolongé. Mm-hmm. Je trouve que c'est un manque cruel à l'heure actuelle.
Fabrice Jessic.
Oui, je voulais juste rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui on vit une période, je dirais, de liberté orthographique, donc on peut utiliser soit l'orthographe rectifiée, soit l'orthographe traditionnelle.
Ah oui, c'est vrai.
Hein, donc les deux usages sont libres. Et je pense que ça, c'est important. Et on verra bien, finalement, quel usage va finir par émerger.
Daniel Cogis.
Oui, sur l'usage, l'Académie française dit « l'usage tranchera, laissons faire le temps ». Bien. Ça fait déjà quand même 25 ans, un quart de siècle. Ouais. Hein, bon. Mais en réalité, cet argument est tout à fait verrouillé, parce que de quel usage parle-t-on ? Est-ce qu'on parle de l'usage des publications, où les publications sont relues par des éditeurs, traitées par des éditeurs, ou relues par des correcteurs quand ils existent encore, et quand ils n'existent pas, on voit le ravage ? Ou est-ce qu'on voit, où on va s'occuper vraiment de l'usage ? Alors, au passage, les élèves qui utilisent aussi l'orthographe, qui sont des usagers, ne sont pas pris en compte. Mais cet usage est aussi verrouillé par les enseignants. Donc, vous ne pouvez pas laisser voir l'usage. Alors aujourd'hui, comme il était dit à l'instant, on assiste à quelque chose d'inouï dans l'histoire, de jamais vu, qui est que les gens écrivent. Les gens écrivent et on peut voir l'usage réel dans
les courriels,
les mails,
sur
les sites. Non, les SMS, c'est encore un cas un peu particulier, mais sur les sites. Alors c'est vrai qu'une enquête sociolinguistique, comme Jean-Pierre Jaffray vient de l'évoquer, serait tout à fait importante. Moi, je constate que, par exemple, les gens, de plus en plus, écrivent « souci »,« insouci » avec un « s ». Alors, on peut dire que l'usage tranchera un jour. Alors, ça, c'est crucial par rapport à ce que prétend faire l'Académie française. Parce qu'en réalité, elle empêche de voir quel est l'usage.
Oui, un dernier mot, Gabriela Paroussa.
Non, je pense tout simplement qu'en regardant un peu l'histoire de l'orthographe, on peut peut-être dédramatiser
le
débat actuel.
Oui, mais c'est ce que vous avez fait depuis le début de cette heure. Fabrice Gestic.
Oui, je voulais dire aussi que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a un retour de l'imprimerie qui joue son rôle d'avant-garde. Et en fait, beaucoup de publications sont publiées en orthographe rectifiée. Et pratiquement tous les dictionnaires aujourd'hui les intègrent. Donc c'est important.
Et Daniel Cogis, très, très brièvement.
Je crois que c'est quand on prend conscience de l'évolution historique de l'orthographe, fabrique de l'histoire, qu'on se dit que, puisque c'était différent autrefois, ça peut l'être encore. J'ai regardé le traité sur la tolérance de Voltaire, dont on a dit que c'était devenu une
vente. Best-seller.
Eh bien, dans les 5 premières pages, il y a 13 mots différents d'aujourd'hui. Et pourtant, on peut tout à fait comprendre le traité de la tolérance.
Merci à vous Jean-Pierre Jaffray. Je rappelle que vous êtes auteur avec Michel Fayolle de l'orthographe, publié au PUF il y a 2 ans. Merci également à nos confrères de Nantes de vous avoir accueillis dans le studio. Merci Daniel Cogis, vous avez écrit « Comment enseigner l'orthographe » avec Catherine Brissot et d'autres contributeurs en 2011 chez Attier. Fabrice Jessic, vous êtes l'auteur de « L'orthographe en 4 temps », 20e anniversaire des rectifications de l'orthographe, c'était chez Champion il y a 2 ans. Et pour terminer, Gabriela Paroussa, Introduction à l'histoire de l'orthographe avec Yvonne Casal, c'est chez Armand Collin l'année dernière. Merci Victor Massé de l'Épinay de nous avoir accompagnés toute cette semaine sur cette réforme de la langue française. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Bolivier et Aurélie Marseille. Yanis Djoudad était avec nous à la technique aujourd'hui et Véronique Samouilov à la réalisation. Tra la 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 la.